Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, My Crime Story. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la forêt ensorcelée qu'on l'appelle Blair Witch. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films, des reportages ou même des vidéos de youtubeurs qui y vont. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vraiment vous raconter l'histoire et la légende en fait qui entoure cette fameuse forêt. Avec le début, donc à sa création, jusqu'à maintenant, pour vraiment que vous puissiez comprendre pourquoi tout le monde s'intéresse à cette fameuse forêt. En tout cas, si vous êtes prêts, c'est parti. Au début du XVIIe siècle, la forêt de Black Hills, donc dans le Maryland, aux États-Unis, souffrait déjà d'une notoriété pas très folle, car les Indiens la disaient maudite. Et personne ne s'y est aventuré jamais. En 1630, c'est le colonel Nathaniel Blair qui se retrouve alors à la tête d'une expédition. Et en fait, il devait simplement déterminer le meilleur emplacement possible pour la construction d'un fort, tout simplement pour défendre la ville de Fort Calvé des violentes attaques qu'il pouvait y avoir par des tribus indiennes qui sévissait quand même pas mal dans la région à l'époque. Il avait quand même demandé à une tribu voisine d'avoir de l'aide ou qu'il puisse être accompagné lors de son voyage, mais évidemment, ils ont tous refusé, car vraiment, cette forêt leur fait simplement peur. Néanmoins, notre cher Blair a quand même trouvé ce qu'il venait chercher et il va tout simplement bâtir un fort qui va porter son nom et qui va être rapidement construit. En 1634, le fort s'est transformé en une petite ville composée d'une majorité de protestants. Pour le moment, il n'y avait vraiment aucun souci. Et la première malédiction va arriver en 1769, lorsqu'une jeune femme d'origine irlandaise va embarquer en partenance de Baltimore pour rejoindre cette petite ville. Elle va s'y installer, mais voilà. Beaucoup d'enfants vont l'accuser de les avoir attirés chez elle afin de leur voler leur sang et elle va être jugée coupable de sorcellerie. Elle va alors se retrouver bannie et les habitants du village vont l'attacher à une charrette et l'abandonner dans la forêt. Cette année-là, l'hiver était tellement froid qu'ils avaient la certitude qu'elle n'allait pas survivre. Mais quelques jours plus tard, trois garçons vont partir dans la forêt en compagnie de leurs chiens, afin de s'assurer qu'elle soit bien morte, que la sorcière, comme ils disaient, était décédée. Mais en arrivant sur les lieux, ils vont découvrir avec stupéfaction qu'elle était toujours en vie. Ils vont être évidemment horrifiés et ils vont se dépêcher de lancer leurs chiens sur elle. Et comme ça ne suffisait pas, les enfants vont alors s'armer de branches pointues avec lesquelles ils vont commencer à frapper la jeune femme jusqu'à ce que son sang se mit à couler. Et après ça, ils vont simplement la détacher et la pendre à un arbre. Donc évidemment, on parle de jeunes enfants, mais on ne parle pas d'enfants qui ont 5 ans ou 6 ans non plus. Et ils vont voir qu'au bout de quelques minutes, avec soulagement, comme dit plusieurs récits, qu'elle était vraiment morte cette fois-ci et ils vont alors retourner au village. Mais au cours du mois de novembre 1786, au beau milieu de l'hiver, tous les enfants de la ville ont disparu inexplicablement, tout comme ceux qui avaient accusé Ellie de sorcellerie. Craignant une malédiction, les habitants de la ville de Blair vont alors tous quitter la ville en faisant le serment de ne plus jamais prononcer le nom de cette sorcière. En novembre 1809, un livre va alors raconter l'histoire de cette ville maudite, de cette sorcière qui avait été chassée, et ce livre va s'appeler « The Blair Cult ». Ce livre, dont il n'existe qu'un seul exemplaire, sera un recueil regroupant les témoignages des habitants du village. Ils y expliquent qu'Ellie ne se limitait pas à la forêt, mais qu'elle s'aventurait également dans la ville afin d'attaquer et de tuer ses citoyens. Il révèle aussi les nombreux côtés mystérieux de la sorcière, parce que, d'après eux, elle contrôlait les animaux de la forêt, même les arbres semblaient répondre à ses appels. En 1820, lors de la construction du chemin de fer qui allait relier Washington à Baltimore, les ouvriers vont alors découvrir la ville abandonnée de Blair. Un dénommé Henry, lui, va acheter la zone au gouvernement, donc la ville abandonnée, et il va y faire des rénovations, des bâtiments en ruine pour le coup. Et en 1824, la ville va être rebaptisée Burkittsville, donc en l'honneur de la personne qui va racheter cette zone. Mais après, il va y avoir aussi des disparitions, notamment celle de Eileen. C'était une petite fille âgée de 8 ans. Elle s'appelait Eileen Treacle et c'était la plus jeune des enfants de l'une des premières familles des colons, du coup, qui va s'installer dans cette nouvelle ville, en tout cas qui va être de nouveau vivante. Et donc, un an après la fondation de cette ville, en août 1825, lors d'un pique-nique qui a été organisé près de la rivière pour célébrer donc les premières récoltes, à cette occasion, Eileen va s'éloigner de ses parents et elle va se noyer dans la rivière. Il va y avoir quand même 11 témoins oculaires qui vont affirmer avoir aperçu une main blanche fantomatique sortir de l'eau, attraper l'enfant et l'entraîner vers le fond. Et malgré des recherches intensives et la faible profondeur du cours d'eau, son corps n'a jamais été retrouvé. Et durant les 13 jours suivant sa disparition, une multitude de petites croix rouges qui se formaient entre elles se mirent à flotter sur l'eau de la rivière qui était devenue étrangement huileuse et inconsommable pour le village. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi du coup une autre histoire de Robin Weaver. Donc cette histoire-là va se passer en mars 1886. Et cette fois-ci, une fillette de 8 ans, Robin, se perdit dans la forêt de Black Hills et une expédition va alors partir à sa recherche. Sauf que 3 jours d'absence après, elle a réapparu magiquement et elle va expliquer qu'elle avait rencontré quelqu'un dans les bois, une vieille femme dont les pieds ne touchaient pas le sol. Elle avait tout d'abord été effrayée, mais elle avait décidé de lui faire confiance et que la femme l'avait alors amenée dans une maison abandonnée qui se trouvait enfouée profondément dans les bois. Robin était rentrée dans la maison et la femme l'avait conduite dans un sous-sol avant de lui expliquer qu'elle devait partir mais qu'elle reviendrait. Et alors les heures se sont écoulées, la nuit était tombée et la fillette avait commencé à avoir peur. Depuis qu'elle se retrouvait enfermée là, elle ressentait comme un profond sentiment de malaise et désespérée, elle s'est alors glissée par une fenêtre, puis elle avait couru à travers la forêt très sombre du coup, vu qu'il faisait noir, et elle était miraculeusement parvenue à rejoindre la petite ville. Mais c'est à ce moment-là que des hommes de l'équipe de secours, qui n'étaient toujours pas rentrés, inquiéter tout simplement les habitants du village qui vont organiser une deuxième expédition pour du coup tenter de sauver l'équipe de secours venant sauver la petite fille. Et en arrivant dans la crique, tout près de l'endroit où la jeune Eileen avait disparu près de 50 ans auparavant, ils vont alors découvrir les membres de la première équipe, leur corps dénudé, qui était attaché entre eux par des poignées et disposé de manière à former un pentagramme. Et il y a eu d'autres symboles qui avaient été gravés sur leur peau et leur poitrine, même les mains, leurs pieds, leur front et même leur intestin gisaient au centre du cercle. Évidemment, horrifiés, les hommes du second groupe, eux, vont courir au village, chercher des renforts et des armes, mais à leur retour, les corps avaient disparu. Ils avaient donc été remplacés par des petits tas de pierres, mais toutefois, il restait encore des traces du rituel, des cordes et du sang sur les rochers. Entre novembre 1940 et mai 1941, 8 enfants vont disparaître sans laisser de traces. Un an plus tard, Rustine ou Rustin, un homme solitaire qui vivait à l'écart du village, va alors avouer avoir assassiné 7 des 8 enfants, puis les avoir enterrés dans la cave de sa maison. Il prétend avoir suivi les ordres du fantôme d'une vieille femme qui habitait près de chez lui, au milieu des bois. Selon ses dires, après le meurtre du 7e enfant, elle lui avait ordonné de se rendre en ville afin d'informer les autorités de ses méfaits. Il avait obtempéré car, en échange de ses aveux, elle lui avait promis de le délivrer de sa présence. Dans la cave de celui-ci, les policiers vont découvrir les traces d'horribles tortures. Après avoir tué les enfants, Rustine les avait enterrés et les avait empilés des pierres les unes sur les autres pour se souvenir de leur emplacement. Leurs corps portaient les mêmes symboles étranges que ceux retrouvés sur les cadavres de Coffin Rock et ils avaient été éviscérés eux aussi. Donc, les organes avaient été sortis de leur ventre. Le 8e enfant, lui, Kyle Brody, était toujours en vie et ils vont le trouver debout dans un coin du sous-sol, au mur, complètement traumatisé. Il avait été le premier enlevé et il connaissait tous les autres enfants. Les autorités se sont posées alors la question d'une éventuelle complicité, mais lors du procès, il va alors témoigner contre l'accusé sans se faire prier. Mais qui est donc ce cher Rustin qui vivait un peu écarté de la société? Cet homme est né en 1903 à Frédéric et il avait perdu très tôt ses parents alors qu'il n'avait que 10 ans. Il avait été élevé par son oncle et sa tante à Birkinsville. Et son oncle, qui était charpentier, lui avait proposé de travailler avec lui à l'atelier de menuiserie et il lui avait appris tout ce qu'il savait. En 1923, Rustine avait commencé à construire une maison dans la forêt, en haut d'une colline, et en 1928, il a alors quitté la ville qui était trop bruyante à son goût pour s'installer dans sa nouvelle demeure, donc bien écartée de celle-ci. D'après les témoignages, il était un homme solitaire mais sympathique qui aimait la nature et les animaux. Il fumait la pipe, se promenait dans la forêt et il semblait heureux à cette époque et il travaillait toujours avec son oncle, mais il se montrait de moins en moins souvent à l'atelier. Et après la mort de sa femme, son oncle avait donc déménagé à Baltimore et laissé Rustine alors seule. Et à ce moment-là, il s'y rendait vraiment de moins en moins, soit deux fois par an seulement pour effectuer quelques achats. Et des années alors vont s'écouler paisiblement et sans histoire. Il avait même commencé à percevoir l'étrange silhouette d'une femme vêtue d'un long manteau à capuche lors de ses promenades en forêt. Mais il ne voyait jamais son visage car elle disparaissait toujours lorsqu'il tentait de l'appeler ou de s'en approcher. Il n'était pas forcément effrayé, mais se posait simplement des questions sur son identité et parfois même il rêvait d'elle. Et à la fin des années 1930, cet homme avait remarqué que les animaux de la forêt, qui étaient pourtant habitués à sa présence, évitaient de s'approcher de lui et de sa maison. Et la nuit, il entendit des bruits étranges qui l'effrayaient tellement que cela l'empêchait parfois de dormir. Et c'est vrai qu'au fil du temps, il en était devenu à craindre la mystérieuse femme qu'il ne la voyait plus, que ce soit lors de ses promenades ou même en rêve, mais dès qu'il s'endormait, en lui, il y avait quelque chose d'étrange, car il parlait d'étranges langues, des langues anciennes, et elle lui répétait des mots et des mots qu'il ne comprenait surtout pas. Et en fait, peu de temps après, il avait commencé à entendre sa voix en journée. Elle lui ordonnait des choses stupides, comme aller dormir dans le sous-sol et obéir. Au début, il avait tenté de rationaliser tout ça, le phénomène en se disant dans sa tête que c'était seulement des hallucinations dues au manque de sommeil ou même dues au manque de sociabilité vu qu'il ne parlait à personne. Mais c'est vrai qu'il va devenir très bizarre et que les villageois, eux, vont énormément se méfier de lui car il avait bien remarqué qu'il était devenu bizarre. Et puis un jour au mois de novembre 1940, cette fameuse voix de femme lui avait ordonné de descendre en ville et d'enlever le premier enfant qu'il croiserait sur sa route. Donc c'est là qu'il va enlever le premier d'une longue série, le petit Kyle. Et lors de son procès, le prêtre du village va alors expliquer qu'il avait rencontré pour la première fois Rustine et qu'à ce moment-là, il s'était accroupi sur une forme de rocher plat au bord de la rivière et qu'au même moment, la forêt était brusquement devenue silencieuse. Et que Rustine, qui semblait réciter une linçante prière, donc dans une langue un peu différente de l'anglais, le prêtre avait donc longuement observé ce qu'il faisait et sans vraiment savoir s'il devait l'interrompre, soudain, Rustine s'était tournée vers lui et à son cou pendait une sorte de bourse. Il avait fouillé à l'intérieur et il y avait sorti une poignée de bâtonnets et une cordelette. Il avait jeté dans l'eau par-dessus le rocher un peu de temps après. Et c'est vrai que lors de son interrogatoire, Rustine va alors reconnaître avoir été pleinement conscient de ses actes au moment des faits, mais il va rajouter alors qu'il n'était qu'un outil aux ordres de la voix de cette femme qui poussait à tuer des enfants. Et cette même foi qui avait, dit-il, gravé d'étranges symboles sur les murs de sa maison, il fut aussi condamné à mort, exécuté, et les habitants de Burskenville s'empressent alors de brûler la maison de Rustine. Donc au final, il n'a clairement pas vraiment eu de procès équitable, on va dire. Mais ce garçon qui a été enlevé, mais qui n'a pas été tué, donc Kyle, lui, après son enlèvement, même après avoir témoigné donc contre lui qu'il avait enlevé, va avoir une vie aussi assez étrange, car Kyle, donc le petit garçon qui a été découvert indemne dans le sous-sol de la maison, n'a jamais été le même, en fait. Après, il va rester souvent seul dans sa chambre, le visage tourné vers un coin de la pièce, ou bien il va s'asseoir sur le porche de la maison et rester silencieux pendant des heures. Il allait évidemment à l'école, mais il passait tout son temps à gribouiller des symboles et des mots mystérieux sur un morceau de papier. Et un jour, le docteur Elspeth Holliday va alors se rendre dans la petite ville afin tout simplement de s'informer sur pas mal de choses et sur la prétendue disparition de sa nièce, donc la nièce de Kyle. Mais en vérité, en fait, cette docteur Holliday, elle faisait partie d'un groupe d'enquêteurs du paranormal qui s'intéressait néanmoins au meurtre de Rustine. Et finalement, elle s'est interrogée longuement sur Kyle et à la fin de son enquête, elle a tout simplement conclu et elle va déclarer que le garçon était sous l'emprise d'un démon, mais qu'elle avait réussi à le chasser de son corps. Mais en grandissant, Kyle va devenir très marginal, et durant ses vagabondages, il va commettre de nombreuses petites infractions, laissant en douter sur sa santé mentale. Il va même se retrouver interné durant de longues années au Maryland State Institute for the Criminal Insane de Baltimore. Et c'est seulement en 1971 qu'il va se suicider en se taillant les veines avec une cuillère en bois. Et il va longuement aiguiser sur le sol de sa cellule cette fameuse cuillère en bois pour vraiment en venir à ses fins. Et vous pouvez retrouver un documentaire qui a été tourné sur les conditions de plusieurs établissements psychiatriques, notamment sur celui où a été enfermé Kyle en 1969. Et lors d'une séquence de ce film documentaire, on retrouve Kyle qui se trouvait dans l'une des cellules et qui répétait inlassablement des mots assez étranges comme « never given », tout comme l'avait fait Rustine la nuit précédant son exécution. Et en fait, on voit lors de ce documentaire en gros plan montrant Kyle Également en train d'écrire d'étranges symboles sur un morceau de papier. Et par la suite, cette écriture a été analysée par un expert. Et en fait, ils ont trouvé que Kyle, il écrivait en Transistus Fluvi. Donc c'est une langue très ancienne qui était utilisée donc, par les colons en fait, de base donc, de la ville de Blair. Et que c'était assez rare d'avoir des adeptes à la sorcellerie, mais c'est surtout que cette écriture-là, en fait, c'était un langage utilisé justement pour la sorcellerie, et c'était très rare d'en être initié. Enfin bref, voilà. En tout cas, tout ce qui va se passer dans les recoins obscurs de la forêt de Black Hills, on ne sait pas vraiment si tout ça est vraiment réel, mais en tout cas, on connaît quand même pas mal d'histoires sur cette forêt. Est-ce que de base, elle était réellement maudite comme les Indiens l'ont dit ? Est-ce qu'elle est devenue tout simplement quand cette jeune Irlandaise a été tuée parce que soi-disant, elle était une sorcière ? Ou est-ce que tout ça, c'est juste arrivé comme ça ? Je ne sais plus comment on dit le mot, mais vous savez quand des faits étranges se passent et on se dit « Ah, c'est relié » ou « Tiens, c'est maléfique ». En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de films, documentaires, mais tout était romancé. Donc, La forêt de Blair Witch, c'est un documentaire qui est vraiment totalement faux. Mais comment ça a été filmé, on croit vraiment que c'est réel. Et moi, c'est, je crois, le premier documentaire-film que j'ai pu voir. Et honnêtement, sur le moment, j'y avais vraiment cru. C'est vrai qu'après pas mal de recherches, on l'a su que c'était des acteurs et que c'était juste un film, que rien n'était vrai dedans. Et c'est vrai que ça, c'est aussi grâce à ça que Blair Witch, en tout cas la forêt, est connue. Mais est-ce que vous étiez au courant de toutes ces petites histoires qui ont pu se dérouler dans cette fameuse forêt ? En tout cas, dites-moi tout en commentaire ou n'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Instagram. Passez une bonne journée en tout cas et on se retrouve plus tard pour un nouveau podcast.